Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour. Nathalie Arthaud qui sera à Limoges ce soir.
Voilà, comme ça c'est complet. Nathalie Arthaud, vous m'avez fait perdre le fil de mon idée. Le pouvoir d'achat et le chômage sont les thèmes qui vont peser le plus dans le vote des Français. C'est ce que révèle ce matin une enquête BVA publiée par Le Parisien. Ça devrait être bon pour vous, ça? Ce sont les deux sujets dont vous parlez le plus?
C'est évident, c'est les problèmes vitaux, je crois, qui frappent chaque famille. Ce chômage, c'est devenu un fléau, hein, un fléau vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis là, les statistiques le montrent. Quand on entre à Pôle emploi, on sait que ça va durer. Parce qu'aujourd'hui, retrouver du travail, eh bien, c'est quasiment chose impossible. Hein, de partout, il y a des plans de licenciement, de partout, il y a des suppressions d'emplois, on renvoie les intérimaires et on en fait faire plus à ceux qui restent.
Alors, ce que je disais, Nathalie Arthaud, c'est que ça devrait être bon pour vous. Mais vous avez bien entendu le conditionnel, parce que dans les sondages, on voit bien que pourtant, ça ne produit pas les effets que vous pourriez espérer.
Alors, nous, de toute façon, c'est pas un calcul électoral d'aucune sorte. Et vous savez, nous ne le cachons pas. Combattre le chômage, ça veut dire imposer, contraindre le patronat à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est-à-dire à prendre sur ses profits pour garantir les emplois et les salaires. Prendre sur ses profits pour embaucher les jeunes, pour embaucher les apprentis, les intérimaires, les CDD. Ce serait ça, combattre le chômage. C'est donc imposer un rapport de force au patronat. C'est l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire.
Et les Français n'ont pas envie de ce rapport de force. Alors, s'ils n'adhèrent pas à vos idées.
Ils ne s'en sentent pas, tout simplement. Ils ne s'en sentent pas. Ils ne voient pas comment on pourrait le faire. Eh bien, nous, toute notre politique, c'est de dire mais si, les travailleurs, ils ont réussi par leur force collective à imposer bien des choses au patronat. En mai juin 36, les congés payés. Hein, vous savez, avant de cette conquête-là des congés payés, le patronat a expliqué qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires, que ça allait les ruiner, qu'il y avait une crise dont on ne sortait pas, etc. Et puis, au bout du compte, il y a eu une grève générale qui a soulevé l'ensemble des travailleurs. Et non seulement il y a eu des sacrées augmentations de salaire, mais il y a eu en plus les congés payés. Donc nous, effectivement, toute notre politique, c'est de dire aux travailleurs, eh ben oui, les luttes des travailleurs, c'est possible. Et c'est même la seule perspective en réalité. Et c'est sûrement pas de se dire, on va changer de locataire l'Élysée et notre sort changera.
Mais de votre point de vue, il y a tout de même eu des progrès. Depuis le Front populaire, il y a eu la cinquième semaine de congés payés. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont avancé. Ça ne s'est pas fait en expropriant les grands groupes, comme vous voulez le faire, en expropriant les banquiers. Ça peut se faire par du dialogue social, non?
Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est du dialogue social qui se passe aujourd'hui.
Mais vous reconnaissez qu'il y a eu des progrès dans le monde du travail depuis ces dernières décennies?
Il y a eu des progrès, et là, en espace de 3-4 ans, on est en train de reculer des années en arrière. Écoutez, aujourd'hui, on est dans une situation où des millions de familles populaires se posent le problème de comment elles vont payer l'électricité, de comment ils vont se soigner, comment ils vont remplir leur frigo. Et on en est là, et on recule, effectivement. Et regardez, et c'est pas le dialogue, hein. Vous savez, il n'y a pas le choix, c'est le diktat. Hein. Ils ont le droit de tout faire.
Vous proposez un autre diktat?
Un autre diktat. Le diktat de la population, des travailleurs, de ceux qui font tourner la société et de ceux qui ont le droit donc de vivre, qui ont le droit de vivre dignement. Moi, il y en a quand même un peu marre de ce diktat de cette minorité-là qui est riche à milliards et qui, pour en faire encore plus, est prête à semer la misère dans tout le pays. Et c'est ça qu'on a en face de nous aujourd'hui.
C'est-à-dire, tout ce que vous proposez, ça s'appelle la dictature du prolétariat, on est d'accord?
Oui, la dictature du prolétariat.
Donc vous proposez un régime politique qu'on appelle une dictature.
Alors, vous savez, c'est justement, il faut comprendre ce que ça signifie. Ça signifie prendre le contre-pied, ça veut dire ne pas laisser cette dictature aujourd'hui des marchés financiers, de la puissance de l'argent, et faire en sorte que les entreprises, que les banques, que les grands moyens de production soient dirigés par l'ensemble des travailleurs. Pour moi, c'est la plus grande démocratie qui soit en réalité, parce que c'est redonner justement le véritable pouvoir, le pouvoir économique à l'ensemble de la population, à tous ceux qui n'ont pas d'intérêt égoïste, mais qui représentent l'intérêt de toute la collectivité et de toute la population. Donc pour moi, ça serait ça la véritable démocratie. Oui, qu'on puisse décider.
Démocratie, dictature, pour vous, c'est compatible?
La dictature du plus grand nombre, c'est la démocratie. Et oui, je pense que c'est comme cela qu'on pourrait enfin décider de ce qui est fait des richesses immenses qui sont créées dans la société et pas de les voir accumuler à un pôle de la société.
C'est le pouvoir du peuple. Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Le peuple exprime son pouvoir par les élections.
Oui, mais
s'il a envie de vos solutions, il vote pour vous.
Vous savez tout de même que personne ne vote pour le conseil d'administration de la BNP Paribas, qu'il n'y a pas d'élection pour ça.
On parle des élections, là.
Non, mais justement, moi, je vous dis qu'une véritable démocratie, c'est aussi d'avoir le pouvoir économique, c'est aussi d'avoir le
pouvoir.
C'est
un choix de société que vous proposez.
Mais vous comprenez, vous nous dites, j'ai le droit de voter, mais je n'ai pas le droit de dire ce qu'il en est sur mon salaire, je n'ai pas le droit de...
Non, vous ne comprenez pas ce que je dis, vous faites semblant de ne pas comprendre. J'ai le droit de
voter
pour quelqu'un...
C'est vous qui faites semblant de ne pas comprendre ce que je veux dire.
J'ai le droit de voter pour quelqu'un qui propose ses solutions, vos solutions. Moi, électeur, comme tous les électeurs français, j'ai le droit d'adhérer à vos idées en votant pour vous. C'est ça la démocratie.
C'est pour ça que je me présente à l'élection. Mais je vous dis toutes les limites de la démocratie. Et que tant qu'effectivement ces entreprises, ces grands groupes et ces banques seront un puits de secret, fonctionneront en dehors du regard et du contrôle de la population, je dis que oui, nous ne vivrons pas en démocratie, mais bel et bien en dictature du grand capital. Et c'est le talon de fer qui écrase non seulement les travailleurs, les exploités, mais aussi les petites entreprises, aussi les petits commerçants et les petits artisans.
Nathalie Arthaud, vous avez dit dimanche, je crois, que voter Mélenchon, c'est une autre façon de voter Hollande. Est-ce que tout de même, ça ne va pas, si Mélenchon fait vraiment un bon score, contraindre François Hollande à mener une politique un peu plus à gauche que celle qu'il avait prévue ?
Je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas parce que ça a déjà été tenté à plusieurs reprises par le Parti communiste, qui pesait y compris jusqu'à 16, 17, 18% dans les urnes, qui avait beaucoup de députés et qui avait même des ministres dans les gouvernements Mitterrand, ensuite dans les gouvernements Jospin. Et jamais, jamais, cela n'a forcé le Parti socialiste qui dirigeait le gouvernement à gauchir sa politique. Et jamais. Vous savez, il y avait des ministres communistes quand il y a eu toutes les privatisations du gouvernement Jospin, qui ont été même plus nombreuses que ceux de Balladur et de Juppé réunis des gouvernements précédent. Il y avait des ministres communistes quand, y compris le gouvernement, décidait de fermer la sidérurgie. Donc non, ça n'a jamais changé, ça n'a jamais pesé réellement sur les socialistes au pouvoir. Pourquoi ? Parce que ce qui pèse sur les gouvernements, encore une fois, c'est ce que je dénonce, c'est cette puissance de l'argent, ces marchés financiers. Vous comprenez, dans cette crise, on a quand même des leçons à tirer. Et ce qu'on voit, c'est qu'y compris les plans d'austérité, y compris les mesures prises par les gouvernements, elles ont été dictées, écrites par les représentants des grandes banques, par les représentants des grands industriels, ceux qui possèdent les capitaux.
Un mot, Nathalie Arthaud, de l'affaire Mera. Le père de Mohamed Mera, qui vit en Algérie, annonce son intention de porter plainte contre la France pour avoir tué son fils. Qu'est-ce que vous inspire cette idée, cette volonté de sa part ?
D'abord, je le découvre. Le découvre là. Écoutez, moi, je ne sais pas exactement ce qu'il a dans la tête en disant cela. Moi, je suis pas pour la peine de mort. Et si j'ai bien compris que, y compris le RAID, n'avait pas cet objectif-là. J'ai rien à rajouter à ça.
Merci Nathalie Arthaud, bonne journée.
Merci.